Mais pour ce qui concerne tout de suite et maintenant, une première table ronde avec trois intervenants. Un premier intervenant qui est double, puisqu'il s'agit de Christophe Vanhout, qui est à ma gauche, qui est élu du comité d'entreprise de EDF-GDF, la CCAS, élu aux activités sociales et culturelles, et qui a travaillé avec un notamment, il nous parlera aussi d'autre chose, mais j'ai insisté dans un premier temps pour qu'on parle de ce projet-là, qui a travaillé notamment avec un vidéaste qui s'appelle Benoît Labourdette. Benoît qui, malheureusement, ne pouvait pas nous rejoindre en début d'après-midi, qui sera là en fin d'après-midi, et qui, comme il est vidéaste, les choses sont bien faites, nous a proposé une vidéo. Donc, a fait une vidéo d'une quinzaine de minutes qui explique la démarche qu'il a engagée, qu'ils ont engagée, la CCAS et lui, sur la question du travail à partir de l'imaginaire et des représentations du travail des agents de l'entreprise. Deuxième intervenant, Arnaud Dubois, qui était à la gauche de Christophe, qui est anthropologue et chercheur associé au musée des arts et métiers, et qui va principalement nous parler de la relation technique-esthétique à partir de la magnifique exposition en ce moment dont il est le commissaire, Les meilleurs ouvriers de France, et que vous pouvez découvrir, soit que vous avez découvert ce midi, soit que vous pourrez découvrir en fin de journée. Et enfin, à la gauche d'Arnaud Théval, un autre Arnaud Théval, non, il n'y a personne à ta gauche, Arnaud, qui est artiste et qui nous parlera de la façon dont l'artiste interroge les dispositifs institutionnels du monde du travail, et la façon dont l'artiste, travaillant dans un milieu de travail, vient perturber cette question des dispositifs institutionnels. Je résume, il précisera, tous les intervenants préciseront mieux leurs projets et leurs pensées tout à l'heure. Donc, pour l'heure, une petite vidéo d'Arnaud Labourdette sur le travail engagé avec les CCAS. Et on se retrouve après avec Christophe Vanhout.
Bonjour, je suis Benoît Labourdette. Je ne peux pas être présent parmi vous. Alors, j'ai enregistré une petite vidéo que voici pour vous présenter le travail d'animation culturelle que j'ai mené avec la CCAS en cette année 2017 sur la thématique du travail. Ce dont je vais vous parler est en ligne sur un site internet que je vais vous montrer. Du coup, je vous invite à je vais vous montrer des choses là sur l'ordinateur et je vais parler en même temps. Mais donc, je vous invite à consulter le site internet si vous voulez en savoir plus. Alors, je vous montre le site et puis ensuite je vous reparle en face. Donc, vous tapez mon nom, Benoît Labourdette. Alors, peut-être que je me présente un tout petit peu. Je suis cinéaste, donc c'est-à-dire que je fais des films. Mais je ne fais pas seulement des films, j'ai toujours eu à cœur de montrer les films. C'est-à-dire que pour moi, un film, quand j'en fais un, c'est fait pour être vu. Et donc j'ai toujours organisé des événements culturels autour du cinéma. Et notamment, j'ai fondé en 2005, il y a donc 12 ans déjà, le festival Pocket Film, avec le Forum des Images à Paris, qui était un festival consacré à la création de films avec téléphone portable. On a créé ça en 2005, à l'époque où les caméras sont apparues dans les téléphones portables. On avait des téléphones portables avant 2005, mais il n'y avait pas de caméra dedans. Pourquoi ça m'intéressait, c'est que, si vous voulez, et même ça me passionnait, Aujourd'hui, on a tous une caméra dans la poche en permanence. Et d'ailleurs, je vous pose la question, parmi vous, levez la main ceux qui n'ont pas de caméra dans leur téléphone. À mon avis, il y a peu de personnes qui ont levé la main parmi vous. On peut croire que, enfin à l'époque, on pouvait croire que c'était un détail, un gadget, la caméra dans le téléphone mobile, de même que le téléphone mobile aurait pu être pris comme un gadget. Tout ça, ce sont des objets techniques qui changent nos modes de vie. Hein. Finalement, le téléphone portable, il a changé notre rapport à l'espace, au temps, notre rapport à l'autre, la différence entre sphère publique, sphère privée, ça a bouleversé beaucoup de choses. Et la caméra dans les téléphones mobiles, on le sait maintenant, elle a bouleversé énormément de choses dans le fait que tout un chacun aujourd'hui fait des images et les transmet immédiatement. On est dans un monde d'images. Et par ailleurs, l'économie du partage d'images amateurs est absolument florissante avec YouTube. Il y a des publicités à côté de ces images. Pour vous donner un chiffre, sur YouTube, il y a 500 heures de vidéos supplémentaires qui sont postées chaque minute avec des publicités qui les entourent. La majeure partie de ces vidéos, ce sont des vidéos amateurs. Voilà, c'est juste pour vous situer que moi, en tant qu'artiste, je me positionne dans une réflexion sur les médias et avec un souci, et c'est pour ça que cet événement culturel sur les téléphones portables a été assez important, un souci d'accompagner, si vous voulez, les nouvelles technologies, leur apparition, leur déploiement de démarches culturelles. D'autant plus que les outils techniques comme le téléphone portable peuvent être des outils d'expression. C'est-à-dire qu'au quotidien, ces outils-là, c'est avant tout du commerce. Et bien sûr, ça change nos vies et c'est pas forcément mal. C'est comme ça de toute façon. Mais je crois que on peut les employer comme outils d'expression. Ça me semble même très important parce que l'expression de soi, de sa subjectivité, c'est à mon avis assez crucial pour l'humain, tout simplement. Chacun pourra en trouver les raisons qui veut. Si vous voulez, dans le domaine de la création artistique, hein, au sens large, il y a les pratiques professionnelles et puis les pratiques amateurs, avec traditionnellement une hiérarchie entre les professionnels et les amateurs. Je crois que il n'y a pas de hiérarchie à faire. Hein, c'est ce que Roger Audin, qui est un sémiologue, a dit dès les années 80. Il a dit que les pratiques amateurs, et notamment d'audiovisuel, elles n'avaient pas la même fonction. Ces images-là n'ont pas la même fonction que les images professionnelles. Les images professionnelles, elles sont faites pour nous divertir, pour faire de la propagande, tout un tas de choses. Et les images amateurs, que ce soit la photo ou le cinéma, la vidéo, sont importantes pour nos vies, c'est-à-dire que le fait d'avoir des images de nous-mêmes enfants, de nos parents, de nos ancêtres, d'avoir des photos des mariages, etc., c'est une façon de contribuer à la construction de son identité. Donc il n'y a pas de hiérarchie à mettre entre pratique amateur et pratique professionnelle. Moi, en tant que médiateur, si j'ose dire, c'est-à-dire en tant que personne qui souhaite proposer des pratiques à des personnes. J'y vais venir juste après cette introduction à ce que j'ai proposé avec la CCAS donc en 2017. Mais ce que je veux dire en tant que médiateur, je crois que si on prend par exemple un atelier d'écriture, c'est quelque chose qui se fait avec la chose la plus banale qui soit, à savoir un stylo. Mais on va proposer une pratique différente avec ce stylo. Et si on propose à des gens d'écrire un poème, de rendre public leur poème, eh bien, ça peut être très fort, très important, très fondateur et exceptionnel ce qui se passe. Et les poèmes, si on prend l'exemple des poèmes réalisés dans ce type de cadre, peuvent être de grande valeur. C'est pas parce qu'ils ont été écrits par des amateurs. Et d'ailleurs, dans le domaine de la littérature, il n'y a pas de professionnels. Enfin, c'est précisément un domaine, il y a en France 100 personnes qui vivent de leur plume, mais sinon tous les auteurs sont dans une pratique amateur, si on peut dire, et pourtant on donne de la valeur à leurs ouvrages, parce qu'ils vivent d'autre chose que de leur plume. Avec les petites caméras, les téléphones portables, eh bien, on peut aussi proposer des formes d'ateliers d'écriture en images, bien sûr, qui peuvent produire des choses de grande valeur aussi. Je crois beaucoup à ça et des choses de grande valeur qui peuvent ensuite mériter être diffusées, être partagées. Voilà. Alors je rentre dans l'exemple comme ça vous verrez tout de suite. Alors on a alors voilà l'écran de l'ordinateur. Je montre l'écran et puis. Et puis je vous explique de ce qu'on a fait exactement, de quoi il s'agit. Alors, où est-ce que j'ai rangé ça? Alors, attendez. Sur la page d'accueil du site, vous pouvez trouver CCAS, Atelier Film d'Animation sur le thème du travail. C'est en fait dans la partie atelier cinéma d'animation, vous voyez, action culturelle et pédagogique, atelier cinéma d'animation. Voilà, ça c'est le petit article que vous pourrez lire. Et je vais lancer un ou deux films pendant que je vous parle. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. La proposition a été au départ une demande de la CCAS qui voulait travailler sur la thématique. Attendez, je coupe le son. Qui voulait travailler sur la thématique du travail. Visiblement la connexion internet ici, et qui voulait travailler sur la thématique du travail et qui au départ m'avait dit on aimerait bien faire des interviews, faire s'exprimer des personnes, des agents du domaine de l'énergie sur la thématique du travail. Moi, je trouve que l'interview, il y a quelque chose d'assez banal là-dedans, et finalement, une tête qui parle, c'est peut-être pas la meilleure façon d'exprimer des choses profondes. Alors, ce que j'ai proposé, vous le voyez là, c'est dans le cadre dans deux contextes, en fait, dans le cadre d'une fête. Pour les agents EDF et dans le cadre simplement d'un restaurant d'entreprise, j'ai proposé à des gens tout simplement de faire un dessin avec, et c'était moi qui filmais le dessin en train de se faire, avec pour seule consigne de faire un dessin ou un schéma qui représente pour la personne ce qu'est pour elle, le travail. Vous pourrez voir, parce que tous les films sont disponibles, je vais vous montrer où il y a une petite cinquantaine de films qui ont été faits. Ce qui était étonnant, et vous pourrez le constater par vous-même, c'est la diversité de représentations qu'on sent dans le dessin. Là, les deux films qu'on a mis là en exemple sont des films plutôt positifs, mais vous pourrez voir qu'il y a aussi des choses très dur, il y a ceux qui se représentent le travail comme une spirale infernale, d'autres c'est le bureau, d'autres c'est le souvenir, d'autres c'est la plage, d'autres c'est l'épanouissement, d'autres c'est les mots dans les deux sens du terme. Il y a dans ces dessins des démarches, pour certains des démarches très esthétiques, d'autres plus schématiques. Enfin, il y a aussi, si vous voulez, dans le fait de dessiner, on sent déjà la subjectivité de la personne. Voilà, ces films ont été réalisés en très peu de temps. Sachez que quand vous les verrez, c'était en deux phases, c'est-à-dire première phase, la personne fait le dessin,
Et deuxième phase, je leur demandais je les enregistrais, j'enregistrais leur voix pour commenter leur dessin. Et ensuite, j'assemblais tout le reste. Ces films-là ont été diffusés dans plusieurs occasions. Alors attendez, ça c'est un autre projet dont je vais vous parler juste après. Pour voir leur diffusion, vous pouvez aller donc à gauche dans la partie innovation et dans innovation Pico Projection. Pico Projection, c'est j'ai pas fait d'article sur le sujet, pardon. ce sont des projections itinérantes faites avec des picoprojecteurs, avec les vidéoprojecteurs portables. Et ben, j'ai pas de photo là, mais dans le cadre du festival Filmer le travail à Poitiers, si, il y a quelques petites photos ici. Dans le cadre du festival Filmer le travail à Poitiers, on a fait des projections dans la ville de films sur les murs, comme ça on voit avec le vidéoprojecteur portable. Et si vous voulez, c'est une très belle façon de montrer ces films. On voit, c'est comme si on écrivait sur les murs de la ville, quoi. C'était très beau. Par ailleurs, il y a eu aussi une diffusion de ces films dans le cadre du festival Filmer le travail lui-même lors d'une séance, ainsi que sur le blog des agents de l'énergie. Voilà pour un projet. Et puis je termine vite pour ne pas être trop long. Dans le cadre du même festival Filmer le travail, on a fait une autre proposition. On a donc, vous trouverez ça dans Atelier créatif ouvert, hein, Action culturelle pédagogique Atelier créatif ouvert. Une autre proposition qu'on a appelée Écrit sur image. Et alors la proposition était la suivante. Il y avait c'était dans l'entrée du lieu principal du festival. La connexion est vraiment très très faible ici. Il y avait des photos, vous voyez, ici, des photos. On avait commandé des photos à trois photographes. On avait récupéré des photos d'un photographe et commandé à deux autres photographes des photos sur la thématique du travail. Et les gens étaient invités à écrire la légende de la photo. Voilà ce que leur inspirait cette photo. Et vous le voyez ici, il y avait un écran où en direct on voyait la diffusion des photos mises en page avec les légendes des gens. Donc ça donnait ça, le temps que ça s'affiche, ça donnait donc vous voyez, il y avait une mise en page. Et puis on voyait en boucle les différentes propositions des gens qui passaient, et là aussi avec des représentations vraiment extrêmement diversifiées du travail, et puis la rencontre entre l'expression d'un artiste professionnel, le photographe, et les gens qui passaient. L'intérêt, si vous voulez, de ces deux ateliers, c'est que ça mobilise peu les gens, donc on peut toucher facilement des gens. Et même si c'est court, il y a une expression vraiment profonde, en fait, hein, de la part des amateurs, entre guillemets. Et cette parole, si j'ose dire, qu'elle soit en image, en dessin ou en mots, eh bien, cette parole, elle est, à mon sens, très constructive et très constructive à être diffusée et à être partagée. On voit là que, d'ailleurs, il y a eu des choses, c'est assez intéressant, différentes sur la même photo. Voilà, bah écoutez, je vais pas être plus long parce que j'ai déjà parlé un tout petit peu plus de 15 minutes. J'espère que ces projets vous ont intéressé. Moi, je ne peux pas être là cet après-midi avec vous, mais je vais arriver en fin de journée. Donc je vous dis à tout à l'heure. Les gens partent au travail.
Je vais peut-être réinviter les deux Arnaud Dubois et Arnaud Théval, c'est pratique, à me rejoindre sur... autour de la table. Donc merci à Benoît Labourdette d'avoir fait cette vidéo. Il ne pouvait pas être là, mais voilà, il a été courageux. Je pense que ça renseigne bien sur le projet qui a été lancé avec la CCS autour des représentations du travail des agents. La première question que je voulais lancer auprès de Christophe Vanout, donc je rappelle, qui est élu aux activités culturelles de la CCS, c'est pourquoi essayer de réaborder cette question du travail avec des agents en se saisissant d'un moyen qui est un moyen de médiation culturelle et artistique.
Oui, je vais essayer de répondre, mais pour y répondre, expliquer un peu... Qui nous sommes et ce que nous faisons, c'est ce qui va peut-être permettre de répondre à la question de Nicolas. D'abord, bonjour à toutes et à tous, tous ceux que j'ai pas salués. En fait, voilà, lorsqu'on dit la CCS et qu'on plus communément on appelle ça le comité d'entreprise EDF, c'est pas tout à fait vrai, parce que nous sommes en réalité ce qu'on en appelle aujourd'hui les activités sociales de l'énergie, et nous représentons un peu plus de 140 entreprises de la branche énergie. C'est pas tout à fait vrai non plus, puisque nous ne sommes pas organisés et structurés comme un comité d'entreprise qu'on pourrait identifier comme de droit commun, puisque nous gérons principalement que la partie sociale, la partie économique étant, elle, abordée dans d'autres instances représentatives du personnel. Ce qui nous différencie aussi, c'est que les activités sociales, donc la CCS et les CMCS qui y sont associés, sont gérés exclusivement par des représentants du personnel élus par le personnel et désignés par les fédérations syndicales représentatives des entreprises. Et la mission ou les activités des activités sociales sont définies statutairement autour de différents champs. Bien sûr, celles qui sont connues sont principalement les vacances que l'on réalise et organise pour les enfants, mais aussi pour les agents des industries et gazières et leurs familles. Mais on pilote aussi des secteurs comme la restauration, la protection sociale, l'action sanitaire et sociale, et aussi la culture. Et donc, depuis la création des activités sociales, on mène une activité culturelle fondée sur une politique culturelle qui, elle aussi, est définie par les orientations du conseil d'administration. Et donc, dans cette politique culturelle, un certain nombre d'actions sont déclinées. On peut citer, par exemple, que les premières actions qu'on a pu mener à la création d'activités sociales. Les premières actions culturelles, c'était la mise à disposition de bibliothèques dans les centres de vacances avec une dotation nouvelle tous les ans. C'était une première approche. Et aujourd'hui, on en est à programmer plus de 1300 rencontres culturelles, donc diverses et variées, hein, qui vont du spectacle vivant au cinéma, à la lecture, etc. Ça, sur nos centres de vacances, principalement. On est également partenaire d'environ 50 partenariats sur des événements, des festivals ou des lieux culturels. Bref, pour vous dire que voilà, bien sûr, on a une politique culturelle au-delà d'une billetterie, même si on en a une, hein, puisqu'on avait abordé ce sujet ce matin, en passant à la question des comités d'entreprise qui ne proposeraient que des billetteries dans leur politique culturelle. Voilà. On en a également une, mais c'est effectivement pas la partie majeure de nos actions culturelles. Et on a toujours tenté de travailler en lien avec, bien sûr, le monde des entreprises et les salariés, mais aussi au-delà, puisque, autre particularité, nous gérons également les agents EDF, bien sûr, dès qu'ils rentrent dans l'entreprise, les enfants des agents des IEG, et y compris ensuite, lorsqu'ils partent à la retraite, ils restent bénéficiaires de leurs activités sociales. Donc, ça nous permet de travailler sur une population très étendue, hein, on pourrait dire de 7 à 177 ans, mais et voilà. Et on a toujours, bien sûr, eu ce regard et cette réflexion à comment amener notre action culturelle au plus près des salariés, voire même dans leur monde, sur leur lieu de travail. Ce qui nous a amené, bien sûr, naturellement, en 2014, d'être signataire de la convention cadre du ministère Art et Monde du Travail, hein, qui a été évoquée ce matin. Et bien sûr, nous sommes partants pour renouveler cette convention, puisqu'elle arrivera très prochainement à terme. Et puis, bien sûr, ce qui nous a amené à participer aussi et à s'engager dans la proposition que Nicolas nous a fait, de s'inscrire pleinement dans la plateforme Travail et Culture. Alors, là, c'est un exemple de ce qu'on peut réaliser. On a fait d'autres, notamment après la signature de cette convention ministérielle. On est réparti ensuite sur l'ensemble du territoire national sur entre, je dirais, 20 structures, et à peu près la moitié des structures se sont engagées dans la démarche et ont imaginé des projets. Certains ont été réalisés, comme celui-là, mais il y a une autre aussi. On a eu aussi une exposition d'œuvres prêtées par les FRAC que l'on a exposées dans nos restaurants d'entreprise, qui ont permis aux salariés, pendant leur pause méridienne, de découvrir justement et d'avoir une approche sur ces œuvres. Et tout ça accompagné, bien sûr, d'un travail de médiation qui est fait en amont, pendant la présentation de l'œuvre, et surtout ensuite, ce qui nous intéresse énormément chez nous, c'est de pouvoir échanger avec les salariés lorsqu'ils ont été confrontés ou lorsqu'ils ont été spectateurs d'une représentation, quelle qu'elle soit. Donc ça aussi, on s'efforce à chaque fois, lorsqu'on propose une rencontre culturelle, quelle qu'elle soit, de pouvoir, avec nos collègues, animer une médiation autour de cette proposition, et ensuite pouvoir discuter soit avec les artistes et avec les bénéficiaires qui ont assisté à ces représentations, et voire même de mettre en relation et en échange les salariés avec les artistes. Et tout ça, ça nous amène à évoluer constamment, puisque on reçoit directement l'expression des participants salariés à ces événements. Ça nous permet d'échanger avec eux et surtout d'être à leur écoute pour construire de nouveaux projets. Et donc voilà, en gros, un peu pour répondre pourquoi on en est là aujourd'hui et présent sur la plateforme.
Donc merci Christophe. Donc on a bien saisi tout le panel des activités culturelles proposées aux agents, tant en tant que découverte de l'espace culturel que de l'accès aux œuvres d'art. Mais moi, ce qui m'intéressait plus particulièrement, en fait, dans cet exemple-là, qui fait parler, donc l'exemple du travail avec Benoît Labourdette, c'est que les agents sont mis à contribution, leur imaginaire, en fait, est mis à contribution, puisque ce qui est recherché dans ce projet, me semble-t-il, c'est la façon dont chacun va exprimer quelque chose de son travail, quelle que soit la couleur qu'il donne à cette chose, qu'elle soit positive ou négative, comme le rapporte Benoît Labourdette. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est que tu puisses aussi expliquer un peu que ce projet, on l'a vu un petit peu dans un des slides, fait partie d'un projet qui s'appelle Parle, qui est initié par la CCAS. Et donc j'aurais aimé que tu nous en touches deux mots.
Alors, Parle, en fait, c'est simplement ce qu'on a défini pour identifier notre action, je dirais, d'accompagnement des pratiques amateurs autour de la lecture et de l'écriture. Donc, ce chantier, on l'a mis en place il y a plusieurs années, et l'idée était de faire découvrir, parce que On avait connaissance de certains salariés qui étaient dans leur temps libre aussi écrivains, et de faire émerger un peu ces salariés et surtout ceux qu'ils réalisaient et les livres qu'ils écrivaient. Et aujourd'hui, ça prend un peu plus d'essor et on en rencontre encore chaque année de nouveau. Et ils participent également avec nous sur des ateliers de lecture, présenter leurs livres, etc. Et on est en réflexion aujourd'hui aussi pour peut-être élargir encore plus ces pratiques amateurs au-delà de la lecture et de l'écriture.
Merci Christophe. On va procéder comme ça en fait pour cette table ronde. À chaque fois, je vais vous renvoyer pas vous donner la parole parce que vous l'avez, mais vous demander si des personnes souhaitent prendre la parole à la suite des interventions. Soit vous en avez, soit vous n'en avez pas. Si vous n'en avez pas, je passe le micro à Arnaud Dubois immédiatement. Si vous en avez, elles sont les bienvenues. Et Christophe va rajouter quelque chose, évidemment. Attendez, je vais juste vous passer un micro parce qu'en fait, comme je le disais, la rencontre est enregistrée pour pouvoir publier des actes qui seront transmissibles d'ailleurs à chacun d'entre vous sur demande à partir de fin janvier. Je le dis parce que des gens qui devaient être là, qui au dernier moment ne pouvaient pas être là, m'ont demandé si des traces de cette rencontre existeraient. Oui, elles existeront puisque ces actes seront publiés et seront mis sur notre site internet, sur la plateforme Culture Art Travail évidemment.
La partie culturelle dans les entreprises, ce sont les CE ou une partie des CE qui s'en occupent. Est-ce qu'il existe des entreprises pour lesquelles c'est la direction qui prend en charge l'aspect culturel?
Alors, je peux... Ou tu réponds?
Vas-y.
Je peux répondre... La réponse est oui, puisque certaines entreprises, en fait, prennent en main... cette question de la dimension culturelle et artistique. J'ai cité tout à l'heure une structure du sud de la France qui s'appelle Mécènes du Sud, qui fait partie de la plateforme Culture Art Travail et qui réunit des PME et TPE, des petites et moyennes entreprises, et qui mécène des artistes plasticiens notamment pour intervenir dans les entreprises, à partir soit de réalité du travail des gens qui y travaillent, soit de la matière première produite par les entreprises, des biens ou des services. Donc voilà, ça c'est un exemple. Voilà, il n'y a pas d'exclusivité sur cette question-là. Historiquement, quand même, en France, c'est vrai que la création des comités d'entreprise ont permis à ce que les représentants des salariés, donc à travers les comités d'entreprise, se saisissent des activités sociales et en particulier des activités culturelles. Mais les choses ne sont pas aussi simples que ça. Là, je vais très très vite.
La commission culturelle n'est pas une commission obligatoire. C'est-à-dire que c'est la volonté des élus qui sont représentants des salariés qui créent une commission culturelle. Et ça, c'est déjà un acte important dans une entreprise et dans un comité d'établissement.
Si je puis me permettre, peux juste ajouter quelque chose. Arnaud Théval, donc artiste, voilà. C'est pas sans poser quelques problèmes que dans les entreprises, ce soit maintenant la direction qui est prise en charge et la communication d'ailleurs qui prennent en charge la question de l'arrivée des artistes dans l'entreprise. C'est un petit glissement historique qui est probablement à interroger.
Dans mon intervention, j'ai pas effectivement, tu as raison de le rappeler, j'ai pas jugé du sens que chacun donnait à ces actions. Hein. J'ai juste constaté que effectivement, des directions d'entreprise et des comités d'entreprise se préoccupaient de culture. Sans émettre de jugement de valeur, je me regarderais bien. Il y avait une question au fond. Tout au fond. Il faut amener un micro. Et après, juste devant, le carton à gauche.
Bonjour, je suis Vega, sculptrice peintre. Et moi, il y a quelque chose qui me choque, avec tout le respect à mes collègues artiste, que je sais pas quoi, c'est, quand on parle d'artiste, je n'arrive pas à comprendre. On parle de culture, et franchement, j'ai du mal à comprendre aussi. Et c'est pas une question d'accent. Parce que je suis en France depuis 30 ans. Je suis espagnol à l'origine. Et de la nationalité, je m'en fous. La question qui m'inquiète, c'est où s'est trouvée la culture, et c'est par rapport à vous, mes chers collègues, quand vous parlez de les arts graphique et visuel. Et en aucun moment vous me parlez ni de peinture, ni de sculpture, ni de graveur. Ça, je n'entends nulle part.
C'est que normal, on n'a pas commencé à parler.
Oui.
Excusez-moi, madame, vous posez une question à l'endroit de personnes qui n'ont pas pris la parole. Mais si vous êtes inquiète, je trouve que c'est le bon démarrage pour commencer à discuter. Alors, on va prolonger l'inquiétude, mais vous inquiétez pas, on va y venir.
Je vais interrompre, après j'arrête. Oui, non, je voulais revenir un peu sur ce qui a été dit auparavant, puisque je ne l'avais pas développé complètement. Effectivement, tous les comités d'entreprise n'ont pas des politiques culturelles ou des commissions d'activité culturelle. Bien souvent pas par manque de volonté, mais aussi et surtout bien souvent par manque de moyens. Et ce manque de moyens les amène souvent aussi à ne proposer finalement qu'une billetterie. Et là, bien sûr aussi, le terrain ou le champ culturel est repris bien sûr par les employeurs, par les directions, à travers leurs outils de communication, etc. Et je voulais juste raconter une petite histoire que j'ai vécue sur ce dont on parlait, à travers une initiative qu'on avait eue il y a quelques temps dans une centrale nucléaire à Fessenheim, dans l'Est, sur un travail artistique photographique. Et nous avions convenu en accord avec les responsables de la centrale de pouvoir laisser libre champ à l'artiste de photographier un certain nombre de clichés et d'en garder une certaine quantité pour pouvoir réaliser une exposition au sein même de l'entreprise dans la centrale. Tout s'est très très bien déroulé. Le travail a été de mise en relation avec les salariés de la centrale, puisque les photos étaient surtout basées sur le travail de ces salariés. Et donc la relation entre l'artiste et puis les professionnels a été accompagnée par des élus de proximité en charge de questions culturelles. Donc tout ça, ça a permis une approche très riche entre eux. Et la direction ne s'était pas du tout opposée au projet, voire même était très très volontaire dans l'approche. C'est simplement à la suite et en arrivant à la fin, je dirais, de travail et de création, et quand on est arrivé à identifier un certain nombre de clichés pour faire l'exposition, que là la direction s'est un peu plus manifestée, parce qu'elle a eu un regard sur les œuvres du photographe, non pas un regard artistique, mais un regard professionnel. Et donc décrypter dans chaque cliché ce qui pouvait peut-être mettre en difficulté l'image de l'entreprise. Donc là, nous, ça commence à nous poser problème, parce que c'est surtout ce sur quoi nous ne voulons pas aller, et c'est justement tout le travail d'approche qu'avait fait le photographe avec les salariés qui, eux, avaient accepté les clichés, et surtout pas, j'irais, censurer des clichés, parce que d'un côté, on voyait une poubelle qui était mal rangée, ou des choses comme ça, quoi. Alors, on a dû trouver, bien sûr, des compromis, puisque cette affaire est montée bien au-delà même des responsables de la centrale nucléaire. Et donc voilà, on a trouvé des solutions quand même pour pouvoir ne pas diminuer le travail de l'artiste, mais il a fallu quand même trouver des compromis avec les directions pour les clichés sélectionnés pour l'exposition. Donc voilà, ce que je voulais dire à travers ça, c'est que c'est pas toujours aussi simple non plus de pouvoir rentrer dans l'entreprise et de pouvoir amener l'art et la culture en entreprise. Je dirais même que c'est de plus en plus difficile. Et donc tout ce travail de recherche d'amener l'art et la culture dans l'entreprise et auprès des salariés, aujourd'hui, c'est pas un long fleuve tranquille, au contraire. On a souvent des blocages. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai réévoqué la convention cadre du ministère de la Culture, parce que c'est beaucoup plus facilitant pour nous lorsqu'on est signataire d'une telle convention.
Oui, Luc Carton, je viens de Belgique, où je suis militant de l'éducation populaire, comme en France d'ailleurs, et où je travaille à l'inspection générale de la culture, mais en Belgique, ne vous inquiétez pas. Et donc, vous avez rappelé en début de votre intervention, Monsieur Van Hout, vous avez rappelé la division du travail entre l'économique et le social, qui prévaut dans la concertation ou la négociation sociale dans le capitalisme industriel, mais aussi la sous-division du travail entre le social et le culturel. C'est bien là le problème, d'une certaine façon. Et c'est peut-être là encore plus le problème quand le capitalisme se fait informationnel, c'est-à-dire quand il réincorpore la culture comme le matériau principal de l'économie, mais dans sa définition de la culture. Et donc j'ai l'impression que le problème n'est plus d'apporter l'art et la culture dans l'entreprise, mais d'extraire l'art et la culture de l'entreprise et des rapports sociaux. Et donc ma question est, si on n'épouse pas la division du travail capitaliste et qu'on la renverse, le travail de la culture doit interroger la division du travail économique, social, culturel. Et donc, de ce travail de la culture, on attend qu'il questionne aujourd'hui le non-sens de l'économie, non ?
Vous avez vu ce matin dans la présentation de l'artiste qui a montré des films sur l'entreprise, deux images qui étaient extrêmement parlantes à cet endroit-là. La première image, c'était la sortie de l'usine, où les employés sortaient tous ensemble. Alors c'était un simulacre de sortie de l'usine, parce que c'est théâtralisé, voilà. Et l'image chez Alstom, où chaque employé sort tout seul. Voilà, pour faire écho à ce modèle-là.
Est-ce qu'il y a encore des questions ? S'il y a encore des questions, gardez-les, parce qu'on est un tout petit peu en retard. Et donc je vais... Ah non, j'ai dit gardez-les, c'est trop tard. Ou alors c'est vraiment un rapport et c'est vraiment court. Bon, d'accord.
En fait, c'était juste pour reprendre un petit peu cet exemple-là, c'est qu'effectivement, il y a un renversement quelque part aussi, dans la mesure où on fait, où les directions font intervenir des comédiens pour faire passer leur système de management. Ah oui, Serco Aguian, je m'étais présenté ce matin.
Merci pour cette question, cette remarque plutôt que cette question d'ailleurs. Donc je passe immédiatement maintenant la parole à Arnaud Dubois. Arnaud Dubois qui est anthropologue et chercheur associé au Musée des arts et métiers, mais qui est aussi bien d'autres choses, il le dira peut-être, et qui est commissaire d'exposition Les meilleurs ouvriers de France, que vous pouvez voir en bas, et qui essaie d'articuler cette rencontre entre esthétique et technique. Et donc c'est là-dessus qu'on a essayé qu'on a convenu qu'il interviendrait, parce qu'on a très, très peu finalement parlé de technique aujourd'hui et du rapport entre technique et esthétique. Et donc voilà, Arnaud, tu vas s'éclairer sur ce point.
Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité à présenter ce travail ici. D'autant plus que vous êtes ici donc au CNAM. Donc effectivement, je suis anthropologue des techniques. L'anthropologie des techniques, en fait, est une spécificité assez française, c'est assez intéressant à noter peut-être dans ce contexte ici, qui s'intéresse notamment à la façon dont les gens fabriquent des choses et comment, dans le processus de fabrication des choses, se produit du social, en fait, et comment on peut comprendre le social et finalement l'organisation des collectifs en regardant comment les gens fabriquent des choses et comment ils les fabriquent. Et donc, si on voudrait, depuis ce matin, je réfléchis finalement à ce titre, culture, art, travail. Et d'un point de vue d'anthropologie, on pourrait peut-être se demander si on pourrait peut-être le remplacer par société, esthétique et technique. Mais c'est peut-être un peu ça que j'essaye de réfléchir dans cette exposition. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont pu avoir le temps d'aller voir, qui s'appelle donc Les meilleurs ouvriers de France, qu'a ouvert en mai dernier, qui va se terminer le 7 janvier. Si certains d'entre vous sont là le 7 janvier, d'ailleurs, on organise MOF en fait le 7 janvier pour la fermeture de l'exposition, où l'exposition va être gratuite, ainsi que le musée et des meilleurs ouvriers de France vont venir faire des rencontres, des ateliers, des visites, pour continuer à animer cette... la question du don et du contre-don. Donc, Les meilleurs ouvriers de France étaient partis, en fait, de la demande, en fait, du comité d'organisation des expositions du travail, qui est cette association qui existe depuis 1924 et qui organise le concours Un des meilleurs ouvriers de France, qui est donc le concours de l'excellence technique française, qui à l'époque, on disait, voulait donner la Légion d'honneur aux ouvrières et aux ouvriers, donc à la fois dans le champ de l'artisanat, de l'industrie, des services et des métiers de bouche, donc tous les métiers de l'éphémère et la gastronomie. Et donc quand ils sont venus nous voir ici au musée, on m'a présenté ce projet. Donc moi je suis ici depuis 2 ans en fait pour essayer de développer un programme de recherche justement sur l'anthropologie des techniques et qui essaye de réfléchir, comme l'a dit ce matin Yves Ouinquin, à comment finalement remettre de l'humanité au cœur des collections, pour dire qu'en fait derrière tous les objets qu'on conserve, il y a à la fois des gens qui les ont produits, il y a des gens qui s'en sont servis dans des contextes de travail, essayer de justement d'essayer de réfléchir en fait à ce patrimoine immatériel qui s'articule au patrimoine matériel en fait des collections patrimoniales. Et donc normalement, en fait, quand il y a des expositions du travail ou des expositions d'artisanat, ou enfin peu importe, on montre effectivement les réalisations que ces artisans produisent. Et j'ai proposé que finalement, il serait peut-être plus intéressant qu'au lieu de montrer les objets, c'était de partir des femmes et des hommes en fait qui fabriquent ces objets et d'essayer de comprendre qui ils étaient et pourquoi en fait ils fabriquaient ces objets-là, comment ils les fabriquaient, qu'est-ce que ça signifiait pour eux. Donc finalement aussi quelque chose qui n'a pas, à mon avis, été dit depuis ce matin, c'est la valeur en fait qu'on donne à l'activité productive en fait. Si on prend le travail comme une certaine sociologie du travail essaye de la définir en tant qu'activité productive. Et donc l'objectif, ça a été de rencontrer ces meilleurs ouvriers de France et d'essayer en fait à la fois d'historiciser leurs pratiques, donc en leur mettant en relation avec les collections du Musée des Arts et Métiers, et de trouver des dispositifs à la fois de captation, de documentation et d'exposition du savoir-faire en fait de ces ouvriers extrêmement qualifiés que sont les meilleurs ouvriers de France. Parce qu'en fait, l'une en fait aussi, comme l'a un petit peu évoqué ce matin Yves Ouinquin, c'est qu'en fait le Conservatoire National des Arts et Métiers et son musée a été pionnier en fait dans la réflexion et la tentative en fait d'exposer, de conserver le travail. Et notamment en fait la spécificité, c'est qu'il cherchait à montrer les procédés et montrer en fait les étapes de fabrication. Donc là, je sais pas si je vais lire, en fait, ça va être un petit peu... Mais ils ont donc créé, par exemple, une chaire des arts appliqués au métier qui a été conduite de 1898 à 1970. Le dernier titulaire était Jean Prouvé et qui s'est toujours, en fait, attelé à réfléchir au lien entre l'art, l'artisanat et l'industrie. Et cette exposition, justement, en prenant le point de vue de l'anthropologie des techniques, en fait, qui cherche à réfléchir à la relation entre la technique, l'esthétique et la société, et d'essayer de réfléchir, en fait, finalement, aux relations qui existent entre des domaines d'activité qu'on a souvent tendance à considérer comme, en fait, étanches les uns avec les autres, mais de montrer que, finalement, au cours de l'histoire, donc là, ici, en fait, on a une histoire, donc, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'au XXIe siècle, comment, finalement, ces champs d'activité ont dialogué ou pas, comment ils ont dialogué, etc. Et ce qui m'intéresse, c'est que par exemple, ici, vous mettez art au pluriel, et si on prend cette notion d'art au pluriel, on revient à cette question des arts et métiers, mais qui n'a rien à voir finalement avec ce qu'on entend, nous, par la notion d'art qui est née dans la Renaissance italienne, où l'artiste est devenu un intellectuel, en fait, et on revient à cette notion plus archaïque de techné, en fait, et qui cherche à réfléchir justement à la question de la création, parce qu'à mon avis, c'est ça, en fait, aussi le dénominateur commun. Ce matin, en fait, ça m'a fait aussi penser à ça, les discussions, quand on disait comment, en fait, aussi une personne s'investit dans son travail et la différence, par exemple, entre le travail prescrit et le travail réel, c'est l'action de la créativité et comment, en fait, la personne, en fait, s'approprie finalement son activité et, en fait, voilà, amène de la créativité dans son travail. Et donc, si on pense à cette notion de créativité, ça permet aussi de réfléchir à l'articulation entre l'art et la technique. Et donc finalement ça montre qu'en fait depuis son origine en fait le musée des arts et métiers a finalement une dimension ethnographique en fait, et ce qui était intéressant c'est que cette histoire là était complètement oubliée parce qu'en fait après la Seconde Guerre mondiale s'est développé ce qu'on appelle la culture scientifique et technique qui s'est beaucoup plus en fait focalisée sur la grosse industrie, l'ingénierie et finalement le travail salarial, ce qu'on parle aussi notamment beaucoup depuis ce matin. Mais il y a aussi tout un pan en fait de l'activité qui est cet artisanat en fait, qui sont souvent des gens qui travaillent seuls dans leur atelier, mais qui nouent des relations avec l'industrie. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Peut-être que vous le savez, parce que vous êtes plus dans le champ, mais moi j'ai découvert ça en fait au cours de l'enquête. C'est que ces artisans extrêmement qualifiés font souvent de la recherche et du développement pour des industriels et font du prototypage, de l'innovation et de la petite série qui ensuite va être repris en fait par l'industrie. Et donc voilà, c'est aussi ça en fait qui est à mon avis intéressant de réfléchir, et ça rend ça à mon avis qu'apporte la dimension ethnographique en fait. Donc ça c'est une vue de l'exposition où vous voyez donc la spécificité de nos objets, c'est pas des objets finis. Et en fait, c'est des objets finalement qui figent un moment en fait de l'action sur la matière au cours du process de fabrication des choses. Et l'intérêt, moi, que je voulais, c'était que le public en fait saisisse justement tout le savoir-faire qui est incorporé dans un objet fini, et c'est-à-dire d'essayer de réfléchir à ce qu'on appelle en anthropologie une séquence d'action, c'est-à-dire toutes les interactions qui s'effectuent entre des hommes, mais les hommes, ça veut dire les conduites corporelles que doivent mener et connaître ces hommes pour réussir à agir sur la matière, donc en utilisant des outils qui s'intègrent donc dans des processus de fabrication complexes avec des étapes de fabrication et qui se font eux-mêmes dans des lieux de production bien spécifiques à l'organisation aussi savamment étudiée. Et c'est en réfléchissant finalement à l'interaction de toutes ces composantes qu'on peut réfléchir finalement à qu'est-ce que c'est que fabriquer quelque chose et qu'est-ce que c'est que le savoir en fait des travailleurs. Et c'est pour ça que l'exposition s'ouvre en fait sur l'objet qui symbolise ce propos, qui est donc la coupe du travail, donc qui est bien nommée pour cette journée et qui symbolise donc le propos de cette exposition. C'est qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui faire une exposition sur le travail, comment le faire. Donc cet objet, la coupe du travail, est un objet qui a été donné au Conservatoire des Arts et Métiers par la Manufacture de Sèvres. Et qui est donc en biscuit de céramique et qui montre en fait en frise les relations entre l'art, donc l'art libéral, donc ce qu'on appelle les beaux-arts, l'artisanat, l'agriculture et les sciences. Donc toutes ces activités finalement qui participent à la transformation du monde, et cette frise parle aussi de la question de la transmission des savoirs et quelle transmission spécifique est la transmission des savoirs faire, qui ne passe souvent pas en fait par l'école telle qu'elle a été conçue et donc par le livre et par l'écriture, mais qui passe par la transmission des gestes techniques et comment on acquiert un geste technique et comment on le transmet. Et sur cette frise en fait vous avez des hommes, des femmes, des enfants, des hommes plus âgés, des hommes plus jeunes, voilà, ce qui permet du coup de se demander en fait qu'est-ce que c'est que ce travail là et qui est mis en relation donc avec des portraits de main. Donc effectivement j'ai mené un tour de France pendant 3 mois auprès de 20 artisans accompagnés de Thierry Caron qui est photographe vidéaste qui travaille depuis de nombreuses années aussi sur cette question du travail, notamment avec les compagnons. Et donc on est allé donc à la rencontre de ces femmes et de ces hommes artisans pour la plupart, et donc on ouvre cette exposition donc sur les portraits de leurs mains, donc le premier objet technique de l'homme. Et comme a été évoqué ce matin, la question de la cognition incorporée, et on sait bien dans le processus de développement de l'hominé en fait, et comment en fait du singe on est passé à l'homo sapiens, c'est différentes espèces d'hommes. On sait que c'est par la question de l'outillage en fait et de la main comme outil. Donc voilà, donc c'est aussi pour essayer de réfléchir à cette articulation entre le savoir pratique et le savoir théorique. Je vais peut-être un peu vous parler de ces gens, pour justement d'essayer de réfléchir finalement à la fois à la diversité de cet artisanat d'excellence et justement aux différentes articulations qui se font entre différents champs d'activité, et pour montrer finalement toujours la nécessité en fait de penser le savoir en situation, c'est-à-dire en faisant des ethnographies en fait, en essayant au maximum d'éviter les généralisations, mais de voir les parcours individuels de chacune des personnes pour saisir justement la spécificité de chacun des savoirs. Donc ici, en l'occurrence, on a Jean-Michel qui est donc le souffleur de verre scientifique à l'école polytechnique et qui donc, on réfléchit à l'articulation entre la science et l'artisanat et qui fait donc tous les objets pour la physique du plasma de l'école polytechnique et qui, il y a un seul lycée en France, en fait, qui est à Paris, le lycée d'Orient, qui forme en fait au soufflage de verre scientifique. Et là, en l'occurrence, il avait une apprentie et il est en train donc de lui apprendre comment on fabrique des fioles. Et en fait, c'est très intéressant parce que les physiciens viennent dans son atelier et lui expliquent quelles expérimentations scientifiques ils sont en train de faire. Et on choisit une heure, on choisit répéter, me le répéter. Demain. Non, c'est bon. On a aussi, voilà, des savoirs qu'on pourrait penser complètement en dehors, en fait, d'une quelconque réalité économique, mais c'est aussi, à mon avis, en prendre en considération, que donc Stéphanie, une brodeuse. Et là, ce qui m'intéresse dans ce cas, c'est la question, justement, de l'éthique, en fait, et de comment, finalement, ces meilleurs ouvriers de France considèrent le travail, en fait, comme une... ils séparent pas, finalement, la vie et le travail. Et c'est en ça que je suis intéressé aussi de penser le travail au-delà d'une activité salariale. C'est que Stéphanie, donc, fait des jours d'angle. Les jours d'angle, c'est une technique de broderie qui était extrêmement en vogue à la fin du 19e siècle. Notamment parce qu'en fait en toute la région centrale française, le Poitou, etc. Et on voilà, c'est ça consiste en fait à détacher en fait des fils de chaîne et des fils de trame, donc à créer des petits trous carrés de 3 mm sur 3 mm et de les rebroder blanc sur blanc. Donc elle fait ça à peu près 8 heures par jour, et quand elle rentre chez elle, en fait, le soir, une fois qu'elle s'est occupée de ses enfants, elle recontinue à broder, et elle arrête son activité, finalement, imposée de l'atelier pour faire son activité, en fait, personnelle, et ça montre, justement, voilà, l'investissement, finalement, et comment, en fait, aussi, le travail peut être un enjeu de vie, et comment, finalement, on devient aussi un homme, inscrit dans une... avec un projet de vie dans le travail, c'est assez intéressant. Anaëlle, par exemple, est une jeune vitrailliste, en fait, qui maîtrise à la fois les savoirs traditionnels, parce qu'elle a obtenu son diplôme de MOF en reproduisant un vitrail du 19e siècle, mais elle le réadapte donc au goût de l'esthétique contemporaine, et elle avait un BTS, un bac général, et elle s'est reformée finalement au vitrail et à l'artisanat. Et aujourd'hui, du coup, elle est professeure à l'école Olivier de Serres. Vanessa, donc, qui perpétue, elle, la technique depuis l'Antiquité des perles sur verre, et qui, en fait, travaille entre les États-Unis et la France. Et son compagnon et elle, en fait, sont en train de développer, finalement, l'activité de la perlerie d'art sur le champ américain. Et donc, c'est intéressant aussi. Et elle travaille, en fait, au fin fond d'une vallée perdue du centre français. Mais finalement, elle est complètement ouverte à l'international. Et c'est ça aussi qui est intéressant à observer, en fait, en situation toujours de travail, c'est qu'avec les nouveaux moyens de communication, ces artisans qui à la fois maîtrisent des techniques ancestrales, comme ici la perle de verre, on en retrouve dans l'Antiquité égyptienne, et fondamentalement c'est la même technique, en fait, elle est ouverte, en fait, à l'international, elle est toujours en mouvement, en fait, et donc voilà, ça permet aussi de réfléchir à cette articulation, finalement, entre le local et le global, parce que c'est ça que je me suis aperçu. C'est au moment, finalement, aussi de la désindustrialisation de l'industrie lourde française que cet artisanat de proximité, en fait, retrouve une actualité parce qu'en fait, il est souvent attaché à des territoires, il est non délocalisable justement parce que même la matière première, en fait, elle est d'un lieu bien spécifique, mais en même temps, elle est toujours ouverte sur l'international parce que chacun des artisans que j'ai rencontrés travaille au Japon, aux États-Unis pour les... Ah, faut conclure. Alors je vais conclure sur François Sigaud. François Sigaud, qui était professeur ici au Conservatoire des Arts et Métiers en Histoire des Techniques, a fini avec la chaire d'anthropologie des techniques à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, qui dans son dernier ouvrage « Comment Homo devint Faber » rappelait cette chose fondamentale, que la technique est toujours l'action du sujet humain. Et en fait, il parlait de la nécessité de saisir le plaisir en fait dans le travail, justement quand le travail n'est pas justement qu'un travail salarial, mais en fait est un investissement, Et puis je vais vous laisser avec cette belle citation de Claude Lévi-Strauss, donc à l'introduction à l'œuvre de Marcel Mauss. Marcel Mauss qui a créé l'anthropologie des techniques en France, qui était le neveu de Émile Durkheim, le père fondateur de la sociologie française et notamment des rapports hiérarchiques dans le monde du travail, et qui explique la nécessité en fait de réfléchir à ce patrimoine immatériel que sont les gestes techniques, et qu'on a souvent tendance justement à que collectionner les objets, et qu'on ferait mieux peut-être de réfléchir à comment trouver une solution pour conserver en fait le savoir-faire humain. Et c'est ce qu'on essaye de faire ici au musée depuis 2 ans. Merci.
Merci beaucoup Arnaud. Est-ce que vous avez des questions, des remarques de ce tour d'horizon? Arnaud Théval est sur des charbons ardents. Je ne l'ai même pas regardé, j'ai vu quelque chose se lever à gauche comme ça. Des questions ou des remarques sur... ce tour d'horizon assez passionnant sur le rapport histoire-anthropologie-travail. Oui, une question là-bas à gauche.
Oui, Farah Sbaï, je suis déjà intervenue ce matin. En visitant cette exposition sur les meilleurs ouvriers de France, j'ai pensé à l'exposition que j'ai visitée il n'y a pas longtemps au Louvre-Lens, sur l'exposition temporaire en ce moment, c'est la musique dans l'Antiquité. Et j'ai pas retrouvé énormément d'instruments de musique dans l'exposition. C'est peut-être parce qu'on parle du travail et que la musique est pas considérée comme un travail. Mais les personnes qui créent les instruments, et ça c'était bien visible dans l'exposition sur la musique dans l'Antiquité, puisqu'on trouve des instruments qui sont d'une facture extrêmement complexe, mais qu'on n'arrive pas forcément à retrouver le mode opératoire de création, ça me manque, moi, dans cette exposition sur les meilleurs ouvriers de France, parce que, par exemple, un luthier, un très bon luthier, c'est un travail extrêmement compliqué, qui a des répercussions, justement, dans la méthode empirique de travailler, c'est-à-dire que tout n'est pas... on peut pas tout mettre sur le papier. On peut pas, par exemple, fabriquer un très beau violon qui est un très beau son sans écouter le violon à un moment. Donc ça peut pas être quelque chose de, par exemple, automatisable, ou on peut pas créer des violons sur une machine. Enfin voilà, par exemple. Ça c'est un champ qui me parlait beaucoup et que je retrouve pas dans l'expo.
Oui, cette exposition n'avait pas ne prétend pas à l'exhaustivité, mais essaye plutôt de trouver une manière de présenter le travail par cette dimension, mais cette dimension sonore, elle est quand même présente, parce que à l'entrée de l'exposition, il y a une installation sonore qui montre justement la question comment les artisans travaillent au bruit, en fait, et qui sont en train de savoir s'ils travaillent bien au bruit qu'est en train de faire l'outil, qu'est en train de manipuler la matière. Et ce qui s'est passé aussi, il y a à peu près 60 artisans qui ont participé de différentes façons à cette exposition. J'ai pas eu le temps de tout vous expliquer. Mais le grand enjeu, ça a été de mettre en relation nos collections avec les pratiques, en fait, de ce concours spécifique-là. Et il n'y a pas, en fait, nous on a une section d'acoustique, mais c'est que du coup une acoustique d'un point de vue des sciences dans dans nos collections, il n'y avait pas de luthier. Mais ce qui se passe, il y a par exemple cette exposition, elle participe, comme je vous l'ai dit, d'un programme de recherche aussi au Musée des Arts et Métiers, et je dirige un séminaire de recherche qui s'appelle Anthropologie des techniques du corps, qui a eu lieu l'an dernier, qui reprend cette année en février, et l'un des intervenants cette année va être Baptiste Boop, qui est chargé de recherche au CNRS et qui travaille sur la lutherie, et justement qui son travail de recherche est exactement sur ce que vous traitez, donc je vous invite à venir en avril venir l'écouter, et il traite exactement de cette question, et notamment son enjeu, ça a été de comment on documente justement un savoir-faire et comment on peut documenter justement un savoir-faire comme ça qui articule notamment de façon extrêmement précise la matérialité de la construction d'un instrument de musique avec l'immatérialité d'un son qui doit sonner juste. Et il a son travail de recherche en tant qu'anthropologue est justement sur cette question depuis de nombreuses années, il travaille là-dessus.
Oui.
Baptiste Buob, il est chargé de recherche au CNRS et il travaille au laboratoire d'ethnographie et de sociologie comparative à l'université de Nanterre, Paris 10.
Voilà, merci pour ces questions. Comme on est très en avance, je vais tout de suite passer à la... Mais j'ai bien noté la question de Serge Le Glonec au fond. Nicolas Frise, après ? Bon, après, gardez-les, vraiment on aura un peu de temps après. Je propose à Arnaud Théval de prendre la parole maintenant, donc dernier intervenant qui est artiste, qui s'interroge plus particulièrement sur que fait l'artiste, que fait le travail de l'artiste au milieu du travail tout court, ou sur quoi et où travaille l'art quand il est dans un milieu de travail, et qui interroge plus précisément la question des dispositifs institutionnels, en l'occurrence là du monde du travail.
Arnaud, absolument. Bah, écoutez, bonjour, je suis ravi d'être là, merci pour cette invitation. Je vais tout de suite dédier cette intervention à Patricia Perdrizet, hein, qui nous a quittés cette année, parce que finalement, cette invitation et ce rappel, comme ça, me fait rappeler, moi, que je travaille dans l'espace du travail en permanence, et j'en avais pas absolument conscience jusqu'à cette invitation pour aujourd'hui. Bon, j'exagère un petit peu. Alors, ce que je fais, moi, je suis donc un artiste, je travaille sur et dans les institutions publiques, je viens, questionner les assignations, les enfermements dans lesquels sont projetés les personnes des institutions ou dans lesquelles elles-mêmes s'enferment par tout un tas de stéréotypes qui les construisent et qui les empêchent parfois de s'émanciper ou d'être un petit peu différemment dans le rapport au travail et dans le rapport à l'autre. Donc l'enjeu de mon travail est de venir agiter l'espace social en y réveillant le politique. Voilà, tout un programme comme ça qui est très ambitieux. Je vais prendre la main sur l'ordinateur. Vous avez pas réussi. Alors, mon intervention d'aujourd'hui s'appelle un délicat dissensus. Je vais vous raconter un petit peu mon processus de travail. Christian Rubis, ce matin, a parlé de la différence entre processus et forme. Alors, je nuancerai un petit peu parce que tout processus, peut-être, parfois, amène à des formes. Premier point, c'est la question de l'atelier de l'artiste, puisque quand l'artiste vient travailler sur ce terrain-là, sur ces terrains-là, où est l'atelier de l'artiste ? Donc de la salle des professeurs au bureau des transmissions d'un hôpital, des vestiaires du lycée professionnel à la salle de repos des surveillants de prison, des recoins d'un chantier au bureau d'un dirigeant, ma présence suscite les mêmes inquiétudes. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi votre travail? C'est de l'art? Pourquoi s'intéresser à nous? D'abord, c'est la suspicion ou l'incrédulité qui domine pour laisser place peu à peu à autre chose. Une sorte de relative confiance en cette figure étrange et nouvelle de l'artiste au travail qui a remplacé ses outils classiques, entendons dans les représentations standardisées l'image de l'artiste 19e, par d'autres, et d'abord par celui de la rencontre, sur et justement le terrain du travail. Celui-ci devenant, avec ses acteurs et l'institution qui les réunit, mon atelier. Pour autant, la figure de l'artiste perçue depuis le monde du travail et celle construite depuis le monde de la culture sont parfois étrangement similaires. On pourra peut-être y revenir dans les questions après. Les enfermements de l'artiste dans des clichés se répondent et stabilisent un consensus sur la figure de celui-ci à la marge, hors le monde, mais pouvant tant apporter par sa sensibilité. Trois petits points, pour autant qu'il reste à sa place. Mais quelle est-elle ? Alors, je vais démarrer par ce questionnement par rapport au monde du travail. Alors, comment j'arrive dans l'univers du travail ? J'y arrive par l'école. je dirais presque par tout le monde, parce que c'est par là que ça commence. Et de fil en aiguille, de résidence dans un IUFM à une proposition de travail dans l'univers de la classe, je me suis intéressé donc à un des paradigmes de la photographie et notamment de la photographie de la photo de classe, et j'ai commencé à travailler un projet qui s'appelait Photo de classe, ou comment dans l'institution scolaire les corps étaient préparés au travail. Alors la première image que je vous montre, c'est une photo qui est issue d'un malentendu, parce que souvent quand les artistes arrivent dans le monde du travail, il y a beaucoup de malentendus sur la figure de l'artiste, et ce malentendu là il est exprimé par la composition que vous avez sous les yeux, qui est un petit déplacement qui s'est opéré. Alors je travaillais avec un groupe d'élèves en terminale, qui était un groupe de filles, et puis on travaillait sur comment précisément déconstruire la figure de la photo de classe, et notamment, puisque vous savez que la photo de classe, c'est le photographe qui vient instrumentaliser les corps à un endroit particulier, etc. Et je leur avais proposé d'être dans un rapport autre, et le rapport autre était un rapport de forte proximité avec ce groupe. Vous remarquez que certains s'embrassent, etc. Et le proviseur adjoint, qui est la figure de l'autorité suprême dans les lycées, arrive et puis me demande « Mais monsieur le photographe, venez me prendre en photo dans mon bureau. » Premier malentendu, je suis le photographe, donc je viens le photographier. Je lui dis « Bah écoutez, pas de problème, sauf que je vais demander aux filles qui travaillent avec moi de venir dans votre bureau. » Et donc collage, premier collage. Collage d'une situation de travail avec ce malentendu, et on fait cette photo-là. Et cette photo-là, bien sûr, je vais la pousser jusqu'à sa rupture, c'est-à-dire comment la médiatiser dans l'espace de l'établissement, c'est-à-dire de faire tenir cette hypothèse d'image rassemblant la subversion. Alors je mets des gros guillemets à subversion, on est bien d'accord, hein, mais en tout cas, ce qui peut être perçu comme tel, et puis la figure de l'autorité. Installation donc dans le hall de l'établissement, prise de parole publique. Vous savez, comme n'importe quel vernissage, prise de parole publique, j'y reviendrai. Et puis, ce qui est extrêmement intéressant dans cette image-là, bon, plastiquement, elle est ratée, parce que je l'avais fait ça avec un petit appareil photo, peu importe. Ce qui est très intéressant, c'est que ce sont les élèves eux-mêmes qui n'ont pas cru en l'image. C'est-à-dire que le déni par rapport à cette possibilité même de faire exister une image avec la figure du proviseur qui remonte l'autorité a été mis en doute par les élèves. Voilà, premier glissement sur le rapport au déni, mais je reviendrai sur ce que peut faire l'image. Et puis, j'ai développé pendant de nombreuses années un travail qui s'appelait « Moi, le groupe », avec les élèves dans les lycées professionnels, parce que, entre-temps, j'étais passé par Saint-Nazaire, j'avais fait un travail avec Alstom et les chantiers, etc., et on m'avait dit « Arnaud, tu devrais regarder un petit peu à côté de l'institution classique, va regarder du côté de chez les mauvais élèves ». Vous savez, les mauvais élèves qui font de la technique avec leurs mains, et puis que finalement, on les envoie dans les mauvaises filières, parce que, etc. Et puis, la pièce que je vous présente, c'était une pièce que j'ai réalisée avec des élèves qui étaient en menuiserie, et c'était des élèves qui étaient extrêmement pénibles, parce qu'ils ne parlaient pas. Ils avaient une espèce de langue de bois, donc pour moi, la façon de les amener sur le terrain de l'échange, c'est passé encore une fois par le corps. Je parlais du corps préparé, et on est sorti avec leur espèce de boîte à outils qui est évidemment le sésame pour eux. Et puis il y a cette photo comme ça, absolument pas préparée, dans laquelle il y a un élément déterminant, il y en a deux. Le premier, c'est que tous ont les mains dans les poches, et que les mains dans les poches, quand les profs ont vu cette photo, ils m'ont dit « mais c'est n'importe quoi, on leur demande toujours d'avoir les mains au travail ». Et que les menuisiers, évidemment, les mains, c'est extrêmement important. Ils les gardaient dans la poche, peut-être pour se protéger de je ne sais quoi. Et il y en a qu'un qui est debout sur sa boîte, si vous regardez bien. Et bien, c'est le seul qui va abandonner la filière de ce travail-là. Et puis, avec ces élèves-là, comme ils parlaient pas et qui m'énervaient beaucoup, parce que j'arrivais pas à trouver un terrain d'échange, on a continué par ce rapport au corps et à la prise de position dans l'espace public, parce que vous savez, l'espace public du lycée. Puisque ce sont des mauvais élèves, ils sont un peu relégués dans l'établissement, parce que c'est quand même des mauvais. Et puis, je leur ai proposé de créer des formes. Donc, vous voyez, un processus qui amène à créer une forme. Et c'est une des formes qui a été inventée, ils voulaient faire un rond autour de la barrière de fermeture de l'établissement, qui est maintenant sécurisée avec des cartes. Vous connaissez les dispositifs de sécurité à Alstom, dans les lycées, c'est pareil. Et puis, alors, ces abrutis-là, avec moi, on fait un rond comme ça, et puis d'un seul coup, on casse la barrière. Alors, la barrière se casse, manque de peau, c'est la sortie de tous les élèves. Ça crée une espèce d'explosion totale qui, d'un amusement plastique, va générer une espèce de prise de position politique au sein de l'établissement, et ça va évidemment créer un gros bazar. Alors, toujours dans l'idée d'associer l'ensemble des protagonistes, je l'ai pas dit, mais quand j'arrive dans un lieu de travail comme l'école ou n'importe où, j'arrive d'abord seul, et puis je m'appuie sur l'ensemble du dispositif existant pour créer une équipe. Donc l'équipe est constituée du prof, elle peut être constituée des agents techniques, des élèves, etc. Enfin, tout le monde participe d'une certaine façon à l'entreprise artistique, à l'œuvre. Et on installe comme ça l'image qui fait, qui résonne, etc. Et puis pour terminer sur ce rapport à l'école, on avait également produit un document, la pièce s'appelle Manifeste Bleu, dans laquelle les élèves racontaient, enfin, il y a toutes les images du récit de cette prise de position dans l'espace de lycée, et les élèves qui étaient les plus taiseux qui soient, donc ont diffusé leur image, qui n'était pas honteuse, qui était justement un espèce de décalage, voilà. Je vais très vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire et je vais me faire couper la parole. Je vais poursuivre mon texte sur la question de la démarche de l'artiste, en allant peut-être sur le terrain de l'institution des archives publiques, justement traversée par un chantier. Cette réalité-là me permet de mesurer où est situé dans l'imaginaire collectif le rôle de l'artiste et de ses préoccupations esthétiques. Elle contient aussi le germe de la naïveté, celle qui ouvre toutes les pistes de l'indétermination de ce qui va se produire. Ce qui arrive va constituer le chemin vers une prise de conscience de mon processus artistique. Ma démarche se confond au début avec des pratiques issues des sciences humaines, une hybridation floutant mes contours. J'y propose une écoute inhabituelle, sans évaluation, ni classement, ni contrôle d'aucune sorte, et la création d'un espace inédit. C'est ce moment qui va constituer le premier fragment de l'œuvre et m'engager dans la construction d'un imaginaire impliquant la parole de l'autre dans son rapport à son image et à son institution. Ensuite, le moment de la restitution de l'œuvre est un moment classique de monstration et une véritable subjectivation des personnes impliquées qui prennent alors complètement conscience d'être à la fois sujet et objet, imbriquées dans l'institution, institution que je regarde et que mon travail met en perspective critique à partir des récits de ces acteurs mêmes. Une individuation émancipatrice qui existe dans cet espace inédit et supplémentaire qui n'est pas sans révéler quelques enjeux politiques sous-jacents. Le renversement est parfois brutal, le changement de position d'acteur impliqué dans l'œuvre et dans l'institution et en même temps vers celui de spectateur est un tremblement de terre. Voilà, acteur à spectateur, ça crée des gros problèmes. Deuxième terrain de travail, donc le terrain de l'institution des archives traversé par un chantier. C'est une invitation, une commande qu'on donne souvent aux photographes pour venir photographier l'évolution des chantiers en architecture. C'est absolument inintéressant de mon point de vue, hein. Et on m'avait donc invité à regarder ce lieu-là, comme ça, et il y avait un truc très intéressant, c'est qu'ils avaient décidé de construire une cloison. Donc le projet s'appelle la cloison de chantier des archives. Ils avaient décidé de construire une cloison entre les ouvriers et les archivistes, parce que les deux univers ne devaient absolument pas être pour eux, parce que vous comprenez bien, la poussière, les archives, ces deux espaces, etc. Et donc je me suis dit, voilà, exactement l'endroit où je vais me situer, je vais travailler sur la cloison, et je vais photographier en m'infiltrant, en mimant la figure du photographe, mais en ayant un tout petit outil que je mettais dans ma poche, comme ça. Et j'ai proposé donc à l'ensemble des acteurs de suivre pendant 3 ans l'évolution du chantier au travers de la figure de dos. Alors la figure de dos, c'est extrêmement pratique pour 2 raisons. D'abord parce que tout le monde peut donner son dos, parce que finalement son dos, c'est pas son identité. Alors le dos, là où c'est intéressant, c'est que ça raconte l'histoire du rapport à l'espace du travail. Vous savez, le dos, ce qu'on porte dans le dos, c'est pas si simple. Et puis le dos, ça permet en tant que construction plastique d'une image d'amener le spectateur à regarder le dos, oui, et puis ensuite qu'est-ce que regarde la figure de dos, c'est une figure classique dans l'histoire de l'art, voilà. Et ce qui était très intéressant à mesure que je m'infiltrais, là je prends le terme à dessin dans le chantier, c'est que d'un seul coup j'en voyais toutes les évolutions. Je suis le seul à avoir vu le chantier pendant 3 ans de tous les côtés. Qu'est-ce que j'y ai vu? Eh bien, j'y ai vu la contrainte du chantier sur l'espace du travail et qu'est-ce que le chantier vient fabriquer comme nouvelle condition de travail insupportable pour les salariés, mais aussi pour les ouvriers au fin fond du chantier. Alors, c'est des images qui étaient insupportables et qui ont donné lieu, comme tout rapport de force avec une direction et une commande et une institution publique, ont donné lieu à un débat, à un début de censure, que j'ai immédiatement réussi à contourner par 2 objets. Premier objet, c'est la fabrication d'un livre dans lequel il y a toutes les images associées à des textes d'un ethnologue et d'un philosophe. Toutes les images qui racontent cette aventure de la construction d'un bâtiment sans jamais montrer le bâtiment. Et deuxième pièce, c'est la création d'une installation comme ça qui reprend les deux côtés de la cloison avec... excusez-moi, voilà, je parle trop vite et patati, voilà, mince. Qui reprend les deux côtés de la cloison avec d'un côté les ouvriers, de l'autre côté, les employés du chantier et de l'autre côté les personnes des archives. Cette installation a failli être censurée, hein, comme votre direction, etc. Parce que, bien sûr, la communication s'intéresse à ce que fait l'artiste dans l'entreprise. Et l'artiste se méfie comme de la mort, de la communication, parce que c'est évidemment une instrumentalisation des choses. Donc la stratégie que j'ai trouvée, elle est extrêmement simple, c'est de venir avec une immense palissade, avec toutes les images associées, puisque chacune des images contenait potentiellement une censure. C'est embêtant. Bon, je continue. Ça va, je vais pas trop vite. Non, ça va. Ok, je vais poursuivre le travail avec une autre institution publique qui est très intéressante et extrêmement compliquée, qui est l'institution de l'hôpital. Et là, je me suis plus particulièrement intéressé aux soignants et au corps malmené des soignants. Et la première image que vous avez, c'est une image qui raconte un peu, encore une fois, le rapport au temps et le rapport à la norme quand l'artiste arrive dans un endroit où il n'y a pas le temps, il n'y a pas la place et on ne peut pas l'accueillir. Ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on n'est jamais, l'institution finalement, on peut dire qu'elle n'est jamais prête à accueillir un artiste. Et tant mieux. Parce que finalement, c'est par ces interstices et par ces petits glissements comme ça et ces malentendus qu'on va pouvoir commencer à travailler. Alors, bien évidemment, quand un artiste arrive pour travailler, on va tenter de l'incorporer à l'équipe. Alors, vous avez une médecin comme ça, d'où ce selfie, enfin, pas au moins un selfie, vous me voyez avec ma tête un peu idiote comme ça, avec cette blouse. Il y a une médecin qui m'a dit, mais vous pouvez pas être dans les équipes hospitalières à venir travailler, ce qui était l'objet de mon travail, donc c'était tenir caché, comment tenter de représenter les équipes hospitalières. Elle m'a dit, vous pouvez pas être là sans avoir une blouse, il faut absolument qu'on vous identifie. Ah, très bien, et alors on m'identifie en tant que quoi? Eh bien, en tant que faisant partie de l'équipe. Alors me voilà avec ma blouse, etc. Et à chaque fois que j'avais la blouse, c'était extrêmement pénible parce que tous les yeux là qui étaient face à moi dans l'hôpital, évidemment, cherchaient des réponses à leur malheur. Et sauf que l'artiste, il n'est pas là pour répondre au malheur, il n'est pas là pour faire du soin. Enfin, en tout cas, c'est pas la position que j'ai, vous l'avez compris. Et donc, identification compliquée, évidemment, refus de ma part de garder cette veste, cette tenue professionnelle qui n'est pas la mienne. Pour autant, dans un autre endroit de l'hôpital, qui est celui du bloc, vous savez que l'endroit est extrêmement compliqué, on m'a rajouté un scotch sur ma tenue, et sur ma tenue, le médecin qui m'a rajouté un scotch, il a écrit « artiste ». Je trouvais ça très très beau. Et je l'ai pas gardé malheureusement, mais c'était très bien parce que c'est complètement flou cette histoire-là. Alors je glisse un peu sur ce que j'ai fait sur l'hôpital public avec quelques images qui viennent réinterroger la violence qu'il y a à l'endroit de l'hôpital public, et notamment cette image où vous avez le nom de famille d'une infirmière aux urgences qui a été gommée. Voilà, et ça m'amène, si vous voulez, à discuter de l'ensemble du boulot que j'ai fait sur l'hôpital, qui est comment interroger les équipes hospitalières et comment produire de l'image un tout petit peu différemment, des images communicationnelles. C'est-à-dire que l'hôpital est un univers qui se lisse complètement, un monde du travail qui est traversé pratiquement plus que par des images de la communication. Et c'est vraiment terrible parce que finalement, il n'y a plus d'espace d'imaginaire possible. Et vous avez là deux images, il y en a d'autres après, je crois, où je demandais au personnel d'avoir une posture comme ça, donc c'est des protocoles, hein, comme à chaque fois, avec le bas du corps extrêmement figé et le haut du corps qui évoque l'altérité ou disons le rapport à son collègue en lien avec son univers de travail. Et j'aurais 10 000 anecdotes à vous raconter sur cette histoire-là. Je vais juste terminer cette histoire-là par la réception de l'œuvre en dehors du contexte de l'hôpital, dans un autre hôpital. Et donc j'avais, là pour le coup c'était à Bordeaux, cette installation-là. J'avais décalé ces œuvres-là dans un autre hôpital et elles ont immédiatement été grimées. Ce qui, moi, m'interroge fondamentalement sur la question du pouvoir, des territoires et de ces images différentes quand elles arrivent à inquiéter le réel. Alors, Madame l'artiste, tout à l'heure, vous étiez inquiète de quelque chose, tant mieux. Précisément, ces images-là, elles ont l'air anodines, mais à chaque fois, elles viennent perturber très fortement l'espace social dans lequel elles apparaissent. Et c'est le premier mouvement, disons, de mon travail. Et après, on peut déconstruire certaines choses. Je continue. Je veux ?
Super. Non.
Juste sur la prison. Juste sur la prison. Je vais hyper vite. Parce que sinon, je vais pas aller au bout de mon idée. Et quand même, pour aujourd'hui, je voulais parler donc d'un autre espace d'enfermement qui est la prison. Donc je vais très vite, hein. J'ai travaillé sur la fermeture des prisons, j'ai fait tout un boulot sur l'inversion de l'œilleton, c'est-à-dire comment on peut parler de la prison en dehors du prisonnier, c'est-à-dire sur le dispositif en tant que tel. Donc j'ai fait un travail sur le corps des personnels pénitentiaires. Vous avez là un surveillant tatoué, la pièce s'appelle La coursive au dragon. Et le geste qui est extraordinaire, c'est le geste de la main sur le talkie-walkie. Je ne sais pas si vous l'apercevez sur sa coursive. Et puis j'ai mis en place une résidence à l'ENAP, fier de servir la justice. Ça, c'est la publicité qui les amène. J'ai fait tout un boulot sur l'incorporation du corps comme ça dans une institution. C'est toujours intéressant quand il s'agit de famille et comment on se défait de ses oripeaux. Ensuite, j'ai fait tout un boulot avec eux sur le geste de l'incorporation, notamment quand on met ses vêtements. Donc, j'ai fait danser des surveillants de prison un peu comme une chorégraphie. Mais ça, on en parlera peut-être plus tard. Et la dernière image sur laquelle je vais m'arrêter, c'est la figure de la femme surveillante en prison. Et cette image-là, comme toutes les autres d'ailleurs présentées, a énormément fait débat, voire polémique. J'ai demandé à ces femmes-là d'interpréter leurs collègues masculins. Et elles ont pris la pose comme ça de ce qu'elles imaginaient être leurs collègues masculins. Et ce qui a été très, très fort, c'est que les collègues masculins se sont révoltés face à l'image pour deux raisons. La première, c'est qu'ils voyaient dedans l'image d'un gang. L'image d'un gang et puis une image d'un gang un peu racaille comme ça. Alors racaille, racisme, je laisse à l'étymologie du mot. Et puis il y a un deuxième détail qui est extrêmement important, qui est, j'étais un peu vite là quand même, très important sur le rapport aux cultures, c'est que nous étions, elle et moi, donc des élèves surveillants et puis moi un artiste en résidence dans leur école, ignorants de la culture pénitentiaire. Les pneus servent à bloquer les établissements quand ils veulent obtenir des choses. Donc ils ont pas le droit de faire grève, hein. Eux ils ont pas le droit de faire grève. Voilà. Et je termine sur... Non, je termine pas. Si, je termine sur la conclusion de mon document, et puis après, j'en ai fini. Donc, un délicat dissensus, hein, vous avez compris. Donc, le fondement de mon travail réside dans cette opération délicate qui consiste à impliquer, tout en mettant à distance les pathos sociaux et les imbrications dans des revendications de corps constitués pour n'être qu'un artiste construisant son point de vue sur ce milieu du travail, sans bienveillance ni malveillance, bon, on pourra discuter. L'enjeu est d'en faire émerger quelques assignations empêchant précisément d'être autre chose qu'une figure enfermée dans les représentations qui ne lui appartiennent plus vraiment, mais qui, avec sa propre complicité, s'augmente à mesure qu'elle s'y résigne. De la formule « c'est comme ça » d'Hugo dans Claude Gueux à l'emprise totalisante du bon sens, c'est face à cet appauvrissement de notre capacité à faire du politique que je situe mon emprise artistique, ou comment l'art peut-il, en agitant l'espace social, réveiller le politique? Mon attitude induit des allers-retours incessants entre les cultures, les codes de l'art et ses lieux, et toutes les autres places imprévues à cet effet.
Merci Arnaud. Alors, pour reprendre de façon juste, dans des contraintes de durée et de temps qui sont importantes, on va reprendre les deux questions en fait qui étaient adressées à Arnaud Dubois avant la coupure. Il y avait au fond là-bas et puis après Nicolas Frise juste devant. Oui, c'était toi.
Oh, c'était moi le fond.
Oui, c'était toi le fond. Dans le fond, c'est toi.
Oui. Alors, en fait, la question où est Arnaud Dubois, c'était, ce qui m'a paru intéressant, c'est la question de la. Il nous a beaucoup expliqué la transmission des techniques, et moi j'ai pensé derrière. Alors non, je me suis pas présenté. Serge Houblonec, je suis animateur des activités politiques culturelles à la Confédération CGT, mais je suis aussi président d'une association intercomité d'entreprise dont on a parlé ce matin, le Centre de culture populaire. Et c'est plus peut-être sur ce registre-là d'ailleurs que je vais intervenir. Donc je reviens. Ça m'a fait réagir par rapport à ce qu'est les raisons de notre rencontre aujourd'hui et de ce que l'on peut faire ensemble. C'est que là, il y a un croisement entre quelque chose de l'ordre de la transmission des techniques, mais il y a quelque chose aussi à continuer et que peut-être nous essayons de faire, je dis nous, ceux qui, dans les entreprises, font ce travail de rencontre et de médiation entre des artistes et le monde du travail, que ce ne sont pas simplement les techniques qui soient mises en valeur, mais la manière dont on les transmet, la manière dont on en rend compte, et la manière dont, à partir de là, l'ouvrier... ou l'œuvrier envoie son propre regard sur le monde transformé. Je pense à un ami et je pense à sa réflexion de tailleur de pierre où il évoque comment on parle de la technique en utilisant des mots qui donnent vie à la pierre. Le tailleur de pierre fait sonner la pierre. Le tailleur de pierre fait danser la pierre. Voilà. Eh bien, à partir du moment où on parle comme ça d'une pierre, on parle autrement du monde. Voilà, c'est ça. Et je pense que... Merci. Mais c'était pas pour dire quelque... Je sais pas, c'est pas une sentence. C'est simplement de dire que... je dis ça pour dire que peut-être il y a un espace. Ça montre l'étendue et l'intérêt que l'on a à croiser peut-être des regards et des modes d'intervention différents sur le travail. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième sur laquelle je voudrais intervenir, parce qu'il y a eu une deuxième intervention, et du coup Arnaud Théval m'a aussi conduit à... En fait, c'était une intervention qui précédait, mais je la lis au travail d'Arnaud, parce que le Centre de Culture Populaire, il est à Saint-Nazaire. Et Arnaud parlait de son action avec les chantiers. Je la connais bien, cette action. Je ne parle pas dans son détail, mais il se trouve que, pour expliquer les choses, Arnaud est intervenu à l'invitation d'une institution, d'un lieu d'exposition sur Saint-Nazaire. Le lieu d'exposition, donc pour lui permettre d'intervenir sur les chantiers, s'est adressé à la direction. Et il est intervenu ainsi dans l'entreprise. Et moi, voyant le travail d'Arnaud, j'ai tenté de faire en sorte que les organisations syndicales s'emparent de son propos, qui était, à mon sens, extrêmement intéressant, puisqu'il interrogeait le singulier et le collectif dans le travail. Et si cette question-là n'intéresse pas le syndicalisme, on peut se désespérer. Mais le contact a été impossible, parce que Arnaud, dès le départ, a été identifié, puisqu'invité par la direction, comme suppôt du diable, avec qui on ne pouvait pas parler.
C'est génial, j'adore être le diable.
Je vais au bout. Et donc, du coup, je n'ai pas pu créer... Alors, je dis ça parce qu'on a eu cette intervention. Faut-il sortir l'art de l'entreprise ? Je dis, il faut faire rentrer l'art dans l'entreprise et poser les termes du débat. Qu'on a encore évoqué dans ce que tu évoquais sur la négociation, à quel endroit mais c'est aussi quelque chose de collectif, c'est-à-dire des photos que l'on ne peut, qu'on nous interdit de présenter, est-ce qu'on la négocie dans le bureau du directeur de la communication ou est-ce qu'on en fait un lieu de réflexion avec l'ensemble des salariés sur la représentation de notre entreprise et l'attachement qu'on y porte, par exemple.
Merci pour ces questions brèves. je vais passer la parole directement à Nicolas Friese. On va grouper les questions. C'est le meilleur moyen, à mon avis, de ne pas perdre trop de temps. Et puis après, Arnaud répondront.
Une toute petite chose. Lorsque la personne tout à l'heure a dit qu'elle regrettait qu'il n'y ait pas un luthier dans les expériences, elle a tout de suite ajouté une chose qui, à mon avis, était la plus importante, c'est que le luthier ne passe son temps à écouter. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il écoute, c'est les variations de son travail. C'est les variations de l'objet. C'est-à-dire que quand vous parlez de la main, souvent vous parlez de la main comme un prolongement de l'outil. En fait, la main, c'est au contraire l'arrêt de l'outil. C'est-à-dire que c'est lorsque le corps se met à aller contre l'outil pour donner une variation à ce que fait l'outil. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, on oublie dans le savoir, quand vous parlez du savoir, quand vous parlez des règles de l'art, alors je suis sûr que vous l'oubliez pas, mais vous le dites pas assez, vous le dites pas bien, je l'ai pas entendu, qu'il y a pas de travail parfait, il y a pas d'objet parfait, il n'y a que des objets qui ont des variations et qui sont tous aussi bons. Par exemple, pour les violons, c'est un cas exemplaire, mais pour beaucoup de travaux, y compris même des gens qui font un travail très répétitif, ils ne font pas une production, ils font des productions. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font est tout le temps varié, très légèrement varié, et c'est cette infinie variation qui est leur part subjective, leur part sensible dans le travail.
Je,
pas une remarque.
C'est très rapide, c'est très rapide. Les jeunes menuisiers qu'on a vus tout à l'heure avaient les mains dans les poches. Et je me pose la question de l'interprétation des mains dans les poches, parce qu'il se trouve qu'à midi, je suis allée voir l'exposition temporaire avec les mains dont vous avez parlé tout à l'heure, et il y a une main qui a un pansement. Cette main qui a un pansement, c'est la main du menuisier.
La question des différentes paroles, effectivement, j'ai... chacune des enquêtes que j'ai menées sont terminées par des entretiens ethnographiques où en fait je faisais parler en fait les ouvriers sur leur travail, et on a à peu près 20 heures d'entretien disponibles dans l'exposition où on les entend justement, et on voit comment en fait ils donnent vie aux matériaux qu'ils sont en train de travailler par des types de vocabulaire. Donc voilà, c'est présent en fait, et c'est, enfin voilà, c'est documenté, effectivement, c'est très important. Parce que souvent on dit que c'est du non-verbal, mais en même, et on dit souvent aussi que c'est des taiseux, ces gens-là. Mais à mon avis, quand ils commencent à parler, en revanche, et si on arrive à les faire parler, ils disent des choses extrêmement belles, et c'est très intéressant de réussir à les faire parler. Et la variation, je suis tout à fait d'accord, c'est quand je parle de contexte situationnel, en fait. À mon avis, et en plus vous touchez un point très intéressant, c'est qu'en fait ce concours essaye de promouvoir la virtuosité technique et justement de dire qu'il y a le chef-d'œuvre, la notion du chef-d'œuvre. Et c'est pour ça que je suis allé moi les voir dans leur atelier, c'est pour essayer de comprendre le geste quotidien et justement comment en fait on pourrait penser que ça se répète effectivement tout le temps, mais c'est que c'est dans cette répétition qu'il y a de la variation et comment finalement... c'est très intéressant parce que c'est en répétant pendant presque 30 ans en fait et que c'est jamais la même chose, justement parce que ce qu'ils disent aussi très bien, c'est que chaque matière en fait, par exemple les gens qui travaillent le bois le disent très bien, il n'y a pas un morceau de bois qui est identique à un même morceau de bois, et donc ils peuvent penser connaître ce qu'il faut faire, mais en fait à chaque fois et Suryo, ça le philosophe le dit très bien en fait, c'est l'artiste ou l'artisan, il écoute et il est à l'écoute finalement de la chose qu'il travaille autant qu'il lui, il essaye de lui imposer une forme en fait, et c'est dialogique finalement. Et enfin, c'est comme ça que je répondrai sur cette question, le mode d'existence en fait finalement de la matière en fait, et comment ils savent l'écouter et réagir. Et à mon avis, la variation se fait là-dedans.
Alors, je vais rebondir sur la question des syndicats et de la négociation, mais aussi de l'écoute, hein, parce que finalement, l'ensemble du travail que je fais passe d'abord par une écoute précise, et finalement, c'est très compliqué d'écouter. Il faut un temps très long. Ce que j'ai pas dit avec cette présentation au lance-pierre, c'est que c'est des projets qui s'inscrivent dans des temporalités qui sont de 2, 3, 4, 5, 10 ans, et finalement c'est indéterminé au départ, et après ça prend le temps qu'il faut que ça prenne, peu importe. Je reviens sur la négociation et le rapport aux syndicats et aux images attendues dans les univers du travail, attendues d'un côté comme de l'autre. Alors bien évidemment, l'idée c'est de pas être sur une dichotomie et de pas produire une image qui soit une image de la direction ou pensée par la direction. Et précisément sur l'histoire de Saint-Nazaire, ce qui a été vraiment intéressant, c'est que avant l'œuvre que vous avez pu voir donc à la fois dans les chantiers et dans le lieu de l'art, donc il y a toujours cette histoire de déplacement entre l'univers du travail et l'univers de l'art, sachant qu'il n'y a pas une œuvre qui serait destinée à des employés quelque part et puis une œuvre destinée à un monde de l'art. C'est une espèce de dichotomie aussi qui est terriblement agaçante, mais dans laquelle on nous enferme, ou en tout cas le monde de la culture s'enferme. Il y a une histoire qui est intéressante, qui est une figure centrale de l'œuvre, qui était un ouvrier qui marchait les yeux fermés, comme ça, qui était très poétique. Il était un grand ouvrier, comme ça, avec les yeux fermés, il était plein de peinture. Donc c'était vraiment une très belle représentation de ce corps en marche. Et puis, il y a eu un bug avec la direction. Alors, j'aurais pas voulu le dire, parce qu'on pense toujours que l'artiste, il est intouchable et qu'il négocie pas avec personne, etc. Et là, la négociation, elle a été intéressante, parce que précisément, elle m'a permis de me déplacer d'une espèce de naïveté sur ce que allait raconter l'image. Qu'est-ce que racontait cette image-là? Elle racontait, finalement, qu'au travers de cette figure de l'ouvrier, comme ça, qui marche... pour ceux qui n'ont pas vu l'œuvre, c'est... Une espèce de foule comme ça, qui est une fausse foule, qui est une reconstitution d'un ensemble de personnes marchant dans tous les sens, avec cette impossibilité de constituer une image d'un collectif qui, à l'époque, était 6000, 7000, je ne sais plus combien de personnes y travaillant, et qui était constitué des ouvriers, mais pas que. il y avait aussi des employés, etc. Enfin, ce que constitue finalement une entreprise. Et la direction m'a dit, mais Arnaud, rends-toi compte, tu es en train de produire une image syndicale. Alors j'ai un putain de merde, j'étais complètement à côté de mes pompes, c'est-à-dire que l'image, mon ignorance, ou en tout cas il y a quelque chose qui m'échappait. Alors gros débat au centre d'art contemporain, parce que l'artiste, il faut pas qu'il retouche son image, etc. Et ils avaient raison. Ils avaient raison, c'est-à-dire que j'ai neutralisé une image qui pouvait basculer dans le champ du syndicalisme. Et vous voyez, je le dis, je prends pas de gants pour le dire. Mais en même temps que je faisais ça, l'image n'a jamais pu être utilisée, d'abord parce que c'était pas possible pour eux au regard de ce que disait vraiment cette image. Elle n'a pas pu être utilisée par la direction pour en faire une image de communication. Tout simplement parce que le contenu de l'image venait interroger la possibilité même de faire un groupe en tant qu'image, et elle contenait son impossibilité même. Ce que vous dites là sur la figure du diable, c'est très embêtant que l'artiste comme ça. Alors aujourd'hui, quand on rentre dans les entreprises, je suis désolé, il y a assez peu de comités d'entreprise dans les petites structures, etc. Y compris dans les institutions publiques. Donc toutes les institutions publiques, que ce soit l'hôpital, l'école ou l'administration pénitentiaire, on passe par les services de communication. Et c'est à la fois un accélérateur et un frein incroyable. Un frein incroyable parce que, du coup, il faut toujours avoir cette idée que l'image va pouvoir être récupérée à je ne sais pas quoi, etc. Alors, je vais distinguer deux choses. Je vais distinguer des images qui peuvent être mises en mouvement dans un projet d'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que, d'un seul coup, une image contienne une problématique qui va permettre à l'entreprise de réveiller tel ou tel sujet et de l'aborder de façon transversale, et tant mieux, et pourquoi pas. Ça peut être le cas de la musique, ça peut être le cas de la photographie, mais de n'importe quel art finalement qui vient s'y travailler. Et puis après, il y a des images qui vont être neutralisées par le dispositif même de communication. Et là, évidemment, c'est impossible et c'est inentendable. Et madame, au fond, là-bas, vous avez raison. Si nous, on arrive sur ce terrain-là, il faut se prévenir de cette instrumentalisation-là. Et c'est très compliqué parce que ça nécessite de faire cet exercice réflexif permanent et de critique permanente. Alors non pas de critique de la critique pour la critique de l'entreprise, c'est pas le sujet, mais d'avoir au moins conscience que quand on met un pas dans une entreprise, que ce soit une institution publique, une entreprise privée, etc., il y a forcément une dimension politique de ce geste-là. Alors ça ne veut pas dire non plus que toutes les œuvres qui sont produites sont des œuvres politiques, c'est pas ce que je dis, mais potentiellement il y a ce risque-là. Alors ce qui s'est pas fait avec les syndicats à Saint-Nazaire, c'est que on s'est jamais rencontrés. On s'est jamais rencontrés et c'est bien dommage. Je vais décaler sur cette problématique à Saint-Nazaire parce que j'ai trouvé un peu la même dans la mission pénitentiaire avec cette même arrivée sur le terrain de l'institution par le biais de la culture et de la communication. Alors à l'hôpital, c'est un petit peu différent parce que il y a des gens qui sont spécialisés en culture. Alors ça veut pas dire que ça va plus vite, mais comme tout est ramassé pour la direction, on n'arrive plus à distinguer les choses. Et ça, c'est un vrai problème. Comment peut-on redistinguer les choses pour que la question de l'art soit pas immédiatement sujette à suspicion? Alors, je vais dire exactement le contraire. Tant mieux qu'il y ait suspicion, tant mieux qu'il y ait doute, etc. On est là pour agiter certains registres de confort. Et on n'est pas dans une place de confort. Dans la mission pénitentiaire, c'est exactement la même. Il y a certains syndicats qui comprennent le dérangement de ce que je mets en œuvre, et d'autres qui sont dans un refus immédiat, puisque l'image que je produis n'est pas l'image attendue. Alors, c'est pas l'image attendue par la direction, parce qu'ils ont bien compris que j'étais pas là pour produire une image qui conforterait. D'ailleurs, comment peut-on conforter l'image des personnes qui travaillent en prison? Vraie question. Et en tout cas, c'est pas du tout l'image qu'ils attendent qu'on produise d'eux, et toujours, in fine, quelle image serait à produire de ce monde du travail-là. Et puis dernière petite remarque comme ça, puis après j'arrête, c'est l'action de la légitimité. On m'oppose toujours l'action de la légitimité pour pouvoir parler sur l'univers du travail quand on n'est pas de cet univers-là. Finalement, j'ai entendu tout à l'heure que les ouvriers ou les employés travaillaient tout le temps, etc. Moi, je ne sais pas si je travaille.
S'il vous plaît, j'ai justement une petite question qui va rebondir, prolonger exactement pour qui vous travaillez.
Ah oui, pour
c'est,
qui
c'est très, ma question est très prosaïque. Je voudrais savoir qui vous paye. Est-ce que vous êtes un travailleur indépendant? Est-ce que vous bossez pour un labo du CNRS? Performeur, photographe qui s'infiltre et se fait embaucher, comme on le voit. Alors, je vous dis, c'est pas parce que j'ai besoin de coller des étiquettes sur les gens. Je veux pas être un récepteur passif de votre démonstration. Et en articulation avec la problématique qu'on a posée ce matin, c'est pas facile de s'intégrer dans un milieu de travail, etc. Donc, c'est une zone d'ombre dans votre présentation. C'est pour ça que je pose cette question.
Ok. Eh bien, parce qu'en fait, je pourrais y répondre. Il y a plusieurs situations. Alors, les gros projets, comme celui de la mission pénitentiaire ou comme celui sur parlons de la mission pénitentiaire, parce que ça, il est intéressant parce qu'il est suspicieux. Eh bien, il n'y a pas de commande. Il y a un rapport de confiance qui s'est installé il y a une dizaine d'années, lorsque j'ai fait un atelier de pratique artistique avec des détenus. J'ai gardé contact, etc. Mais attendez, j'y arrive. Mais je vais y arriver. Laissez-moi le temps d'y arriver. Bah, vous l'avez posé. Okay, exactement, mais parce que en fait, je suis l'ami du président de la République.
Essayez de répondre. Ben voilà, merci. C'est ce que je pensais.
C'est ce que vous voulez entendre. Ben c'est ce que je vous dis. Mais ce que je suis en train de vous expliquer, monsieur, c'est que j'ai une attitude artistique qui. Mais enfin, laissez-moi le temps d'exposer les choses. Alors, si vous voulez, je vous réponde de façon pragmatique et précise. Ça va réduire les choses. On a créé un espace de travail à l'École nationale de mission pénitentiaire qui est devenu une résidence. Alors, comment j'ai fait? J'ai pris mon téléphone. Je les ai appelés, je leur ai dit, voilà, je suis artiste, j'ai fait un boulot sur la fermeture des prisons à Nantes. J'ai été intéressé par la figure du surveillant. La question du travail dans cet univers-là m'intéresse. Très bien, rencontrons-nous. Et je vous promets que j'étais simplement les rencontrer. J'ai dit, écoutez, voilà, j'étais voir Anne-Claire Landrieux qui travaillait au service culturel. Je dis, je suis artiste, j'ai envie de faire un projet. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je sais pas. Indétermination de ce que j'allais faire. Combien ça va coûter? Je sais pas. Combien on peut trouver? Et je vous promets que les choses se construisent comme ça. Ça, c'est la première réponse pour les gros projets. Et petit à petit, évidemment, il y a les DRAC, il y a le ministère de la Culture, qui est toujours dans les dispositifs culture santé, culture justice, etc., qui accompagnent ces dispositifs-là. Eh ben, allez lui demander. Mais pour continuer la réponse avec monsieur, parce que je vous promets que je passe des heures... Mais vous ne me croyez pas? Je crée des espaces dans lesquels je travaille en mimant les résidences d'artistes. C'est pas un passe-gold. Mais non. Ben pourquoi c'est un passe-gold? Vous croyez que je suis copain avec tous les dragues de France? Ben non, ben vous êtes suspicieux. Vous voyez, c'est ça la question. Mais c'est hyper intéressant. Mais attendez, laissez. Mais votre question, elle est super intéressante parce que vous me regardez avec la suspicion de quelqu'un qui va être auprès des grands patrons ou des grands machins, etc. Pas du tout. Non, mais vous savez comment je travaille. Je suis en train de vous répondre. Je vous promets que je passe ma vie à discuter avec tout le monde en essayant de produire le plus possible d'égalité. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde si vous me répondez comme ça? Vous savez combien je gagne? Vous voulez savoir combien ça coûte? Qu'est-ce que je comprends pas votre question? Ah, vous voulez que je...
J'ai pas compris.
Je suis un artiste plasticien. Déjà, le mot plasticien, qui produit des dispositifs qui associent les personnes dans les institutions. En termes de forme, je fais des photos, je fais des textes, je fais des livres, je fais des installations, je fais des discours. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde de plus? Je comprends pas votre question. Aidez-moi à répondre à la question parce que je...
Je vais y répondre rapidement en coupant ce dialogue naissant, mais vous aurez l'occasion de le continuer. Juste pour vous préciser avant de passer à la séquence suivante, que des façons d'accéder à des milieux de travail, il y en a énormément en fait. Et qui vaudrait, et vous avez raison de poser la question, monsieur, il faudrait y consacrer un vrai moment de travail que nous ne pouvons pas consacrer aujourd'hui, mais les façons d'accéder au travail, donc à l'activité, à l'intérieur de l'entreprise, il y a des milliers de façons sans perdre son âme pour autant à chaque fois et en restant dans l'intégrité de projet. Je suis désolé, mais je vais devoir passer à la séquence suivante, sinon on va déborder, on va être mis à la porte. Une remarque, mais alors très courte, hein.
—
Stéphane Grosclos, je suis intervenu ce matin. Je voulais juste pointer toutes les questions d'accompagnement que du coup on ne pose pas aujourd'hui, enfin dans ce cas-là précis, de médiation. Il y a dans le secteur du spectacle vivant en particulier, et mon réseau, ce sont des agences régionales qui accompagnent les porteurs de projets. Il y a un savoir-faire, il y a des professionnels pour ça. Et puis, au-delà de ça, la question de la formation des formateurs. Il ne s'agit pas uniquement de former des artistes à être des entrepreneurs, quoique c'est la question aussi, mais à acquérir des compétences, pas seulement dans leur parcours de formation artistique, mais aussi du sens social de leur pratique et de ce qu'ils peuvent être, et des compétences dont ils peuvent avoir besoin, aussi pour aller dans l'entreprise.
Je peux répondre quand même. Après, parce que là, c'est super intéressant les débats qu'on ouvre là, donc c'est un peu dommage de les couper. C'est compliqué la question que vous posez sur est-ce qu'il faut former les artistes à une destination particulière. Moi, je pense pas. Je pense que les artistes doivent se questionner sur le sens de leur pratique là où ils sont. Mais ça, c'est un débat. Après, je veux juste revenir sur qui je suis, comment je suis, etc. On a une commande là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque intervenant est arrivé avec un récit de sa pratique artistique. C'est la commande. Voilà, et à partir de là, on problématise, on prend le temps de poser, mais on peut pas tout poser, si vous voulez. Il y a tout un tas de choses qu'on ne pose pas, qui sont effectivement les dispositifs accompagnants, les forces publiques qui sont agissantes auprès de nous, parce que si elles sont pas là, ce genre de projet, c'est extrêmement compliqué à tenir. D'ailleurs, tout le monde s'en fout, parce que faire des projets dans le monde du travail, ça intéresse qui ?
Allez, hop, bing. Je voudrais juste.
Alors, ça intéresse énormément de monde. Il y a encore.
Dernière petite.
Il y a encore une remarque et après vraiment on passe à.
Oui, donc je suis intervenu ce matin. Dans la résidence que j'ai réalisée à Alstom, donc la question s'est posée de ce que certains ont appelé la censure. Je pense que c'est ce statut de la censure qu'il faut penser. Je pense qu'à partir du moment où il y a là, donc à Alstom, ça s'est posé quand je photographiais les opérateurs, les ouvriers dans les ateliers. Des gens ne portaient pas ce qu'on appelle les EPI, les vêtements de sécurité. Et donc au moment de la fin du choix des photographies, les gens, la direction a dit ah ben non, on peut pas. Ça parce que ça va nous montrer. Donc le langage de la communication est à ce moment-là, et de la représentation de la communication est intervenu. Et ce qui est intéressant, c'est moins de savoir de crier haro, bonjour, je suis artiste, et halte à la ceinture. C'est pas ça la question. Enfin, à mon sens, c'est pas ça la question. C'est pas ça comme qu'on a pris. C'est de poser sur la table avec les salariés, avec les instances, pourquoi il y a censure. Et censure, en tout cas questionnement, pour non volonté de représentation. Et donc cette question des EPI, donc des vêtements de sécurité, ça posait la question de l'activité. Donc il y a un corpus comme ça d'images qui est là à disposition pour pouvoir travailler les questions de sécurité. Je veux dire, c'est moins la question de celle de l'artiste qui vient se dire mais pourquoi y a-t-il eu ces réactions, et de les poser au milieu de tous. C'est ça qui est intéressant.
Bon, merci pour cette table ronde qui aurait pu se poursuivre encore pendant quelques heures. Un délicat dissensus, tu disais Arnaud, ben voilà, on y est, c'est intéressant. Mais les choses se construisent aussi dans le dissensus et pas dans un consensus tiède, donc tant mieux. J'en remercie Christophe Vanhoute, Arnaud Teval, Arnaud Dubois pour leur contribution.